RCF.
Nous vivons dans une société où règnent les mots utilité, efficacité, rentabilité, des concepts qui s'infiltrent partout, dans l'entreprise et le grand marché, en politique, dans le champ médical et psychologique, sans oublier la vie du couple ou l'éducation des enfants. L'époque rêve de contrôler ce qui lui échappe et dans ce contexte, on peut se demander ce qu'il advient de l'homme, cet être fragile, vulnérable, faillible et mortel. La dictature de la maîtrise et du contrôle transforme insidieusement nos vies et l'on en vient à perdre le sens profond de la relation aux êtres, mais aussi au monde qui nous entoure. Comment retrouver un juste rapport au monde? C'est la question que pose le philosophe Fabrice Midal dans son livre « La tendresse du monde » paru chez Flammarion. Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
C'est à cause de l'angoisse de la mort que notre civilisation rêve de tout contrôler?
Ça, c'est le point de vue le plus ultime, mais à un niveau plus relatif, on est pris par une sorte d'idéologie, comme toute idéologie, qu'on adopte sans même s'en rendre compte, qui fait que tout est pris, vu, à partir de la gestion. Ce que vous avez très bien dit dans votre introduction, c'est tout à fait très frappant et très lourd pour beaucoup de gens que tout soit pris dans cet ordre-là. On parle maintenant de gérer ses émotions, de gérer ses affects.
L'éducation de ses enfants.
L'éducation des enfants, de gérer les gens dans une entreprise, alors que le mot « gérer » est un mot qui devrait être réservé à la seule sphère économique. On gère son compte en banque, on a raison de gérer son compte en banque ou gérer ses économies, mais on ne devrait pas gérer un être humain, on ne devrait pas gérer ses émotions. On parle de la même manière maintenant des ressources humaines, qui est un mot qui dit l'élément de barbarie de notre temps. Il n'y a pas de ressources humaines. Il y a déjà parlé de ressources naturelles, c'est déjà un rapport très étrange à la nature. Parler que l'eau est une ressource naturelle, c'est déjà lui faire violence. Mais parler d'êtres humains comme des ressources humaines témoigne de quelque chose qui vraiment déraille.
Donc il faut sortir d'un rapport utilitaire aux êtres humains.
Aux êtres humains, mais même aux choses. Utile. Donc déjà, je voudrais montrer la barbarie du rapport très abstrait. C'est à la fois utile et aussi abstrait. C'est très mécanique. Il y a une mécanique. Donc déjà, c'est ce rapport-là que je trouve inquiétant. Alors, sur la question de l'utilité, il y a des choses qui sont... C'est bien d'avoir des choses utiles. Un tire-bouchon est très utile. Je suis content d'avoir un tire-bouchon. Je m'en sers. Mais est-ce que tout doit être pris comme un tire-bouchon? Là, il y a quelque chose de très mal éduqué de vouloir considérer un être humain comme un tire-bouchon. Vous voyez? Et là, il y a quelque chose qui ne va plus. Et je suis... Je suis frappé que, au fond, la grande parole propre à la spiritualité la plus authentique nous parle de cette fragilité humaine que notre temps nie dans cette instrumentalisation. Et comment cette parole, qu'on considère un peu comme souvent un peu à part, cette parole éclaire un phénomène majeur aujourd'hui, qui est la souffrance que tant de gens vivent à leur travail. C'est quand même un phénomène, moi, qui ne cesse de me bouleverser. Et en venant ici, je lisais dans le journal une enquête sur deux personnes qui, n'en pouvant plus de leur boulot, se sont immolées par le feu et ont par miracle survécu et témoignent de ça. J'en avais les larmes aux yeux. Qu'on en arrive à que des êtres humains se suicident parce qu'on leur dénie la reconnaissance comme être humain. Nous n'avons jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. On a connu des guerres, on a connu des violences, on a connu des gens qui se tuaient parce qu'ils ne pouvaient plus, parce qu'ils avaient des maladies. Mais des gens qui n'ont aucun problème, juste à force d'être déniés dans leur existence, la violence d'être instrumentalisés à ce point fait qu'ils ne peuvent plus vivre. Je trouve que là, il y a un regard que peut porter un regard spirituel pour comprendre la violence que nous subissons de plus en plus, extrêmement décisive. Et que si nous ne passons pas par là, nous allons ne rien comprendre à l'élément de catastrophe qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en considérant déjà même qu'un arbre, qu'un animal, que de l'eau, que le vent ne sont que des ressources qu'on doit saisir en vue de prendre possession de ce qu'on peut en faire. Et les êtres humains gérés comme ça, l'élément, moi, je trouve ça absolument poignant. Et donc, c'est tout à fait clair que dans mon livre « La tendresse du monde », l'art d'être vulnérable, j'essaye de montrer comment essayer de s'en sortir par rapport à ce qui est comme un système du désastre.
Et vous dites dans la préface qu'il faut accepter déjà peut-être d'être humain.
Absolument.
Ça veut dire qu'on n'accepte plus notre humanité fragile, dépendante, mortelle.
Absolument. On n'accepte plus, mais ce qui m'importait dans le livre, c'est d'essayer de montrer comment ce système du désastre ouvre une situation historique tout à fait singulière où la question du mal change de registre. Parce que la question du mal, autrefois, on voyait un acte qui fait du mal, je fais du mal à quelqu'un, je tue quelqu'un, je blesse quelqu'un. Aujourd'hui, dans le système du désastre, plus personne n'est responsable de rien.
On ne voit rien.
On est dans une dissipation de la responsabilité. Qui est responsable? Alors, évidemment, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la Shoah. J'avais écrit avant Auschwitz sous l'impossible regard, qui, à mon avis, marque une tournure, un tournant dans l'histoire de l'humanité, puisque qui est responsable à Auschwitz? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fonctionnaire qui vient chercher le juif chez lui? Celui qui conduit le train? Il y a une dilution de la responsabilité qui fait que plus personne n'est responsable. Or, nous vivons dans une situation comme ça aujourd'hui. Le directeur des ressources humaines doit décider qu'on délocalise et qu'on vide tant de personnes. Qui est responsable? Qui parle à un être humain à un moment? C'est une situation...
De barbarie ordinaire?
Oui, d'une situation de barbarie ordinaire et d'autant plus inquiétante que plus personne n'est responsable. Nous sommes pris dans une calculabilité extrême où la seule chose qui compte, c'est la calculabilité. Tout est pris dans la calculabilité. Mais... Je m'intéresse beaucoup à l'art. Regardez aujourd'hui quand on parle d'une exposition, l'exposition n'est plus qu'on dit il y a tant de milliers de gens qui l'ont vue, donc c'est un succès. On ne parle pas qu'est-ce qu'elle fait apparaître, quel élément de vérité elle œuvre, elle met en jeu. Est-ce qu'il y a des êtres humains en voyant cette exposition ont été réintégrés dans leur humanité, lavés de leurs soucis? Non, on parle de combien.
On retrouve ça dans le domaine éditorial quand tout. Vous avez
un
chiffre énorme de ventes. Tout le monde se rue vers le même livre.
Absolument. Donc là, il y a quelque chose. Mais comment on peut... C'est une attaque à l'humanité, à l'intelligence, à la tendresse qui nous met dans une situation impossible. Et le discours habituel qui ne prend pas le risque de revenir à cette nudité d'être, ne peut pas régler le problème. Je crois que là, c'est le grand aveuglement de la plupart de nombre de penseurs, c'est d'en rester à des généralités sans que cela s'incarne profondément. Or, s'il y a bien une chose que nous apprend le discours spirituel, c'est comment on peut s'incarner. C'est au fond la grande question chrétienne. Comment on peut s'incarner? Ça, c'est vraiment ce qui fait défaut.
Repère RCF.
Fabrice Midal, je rappelle le titre de votre livre, La tendresse du monde, paru chez Flammarion. La tendresse, vous parliez d'un rapport tendre au monde, à cultiver. Alors, c'est quoi cette tendresse? Parce que c'est un mot fourre-tout. Qu'est-ce qu'on met sous le mot tendresse? Qu'est-ce que vous mettez?
La tendresse, c'est la possibilité de pouvoir être touché, de pouvoir accepter d'être ému, touché, bouleversé. Ça, c'est le premier point. Et après, que se déploie de cette possibilité d'être touché une intelligence qui vous met en relation de manière juste. Dans la tendresse, au fond, elle s'oppose à quoi? Elle s'oppose à l'agression. L'agression, c'est un mouvement de force qui détruit sans égard pour ce qui est. Et la tendresse, c'est prendre égard pour ce qui est de telle manière qu'on le laisse être.
Donc c'est une dimension de présence au monde, aux autres?
Absolument. On peut dire que la présence ne peut être présence qu'en tant qu'elle est pure tendresse. La tendresse, c'est la modalité même de la présence. Et il faut que je fasse une précision. Mon propos n'est pas de condamner la calculabilité à l'extrême. Je ne suis pas un moraliste. Je suis plutôt philosophe ou marqué par un engagement spirituel. Donc c'est très important. Je ne dis pas calculer, gérer, c'est mal. Je dis, essayons de comprendre ce qui se passe et que nous subissons sans nous en rendre compte, qui s'insinuent en nous quand nous parlons ce langage-là. Je n'ai rien contre quelqu'un qui est directeur des ressources humaines. Je pense qu'au contraire, en se rendant compte de ce qui se passe dans ce terme-là, il fera beaucoup mieux son travail. Donc c'est très important, je voudrais préciser, il n'y a pas du tout en moi l'idée de dire « voilà, ça c'est mal », c'est pas du tout ça. Et justement, il s'agit d'avoir un regard de tendresse et d'essayer de voir quel est ce système du désastre qui œuvre en nous pour avoir un rapport d'un peu plus grande liberté par rapport à lui et de pouvoir retrouver un rapport d'humanité et de tendresse. Et
oui, mais pour reprendre justement l'exemple du directeur des ressources humaines qui est dans un système qui le dépasse totalement, que peut-il faire ?
Alors ma conviction profonde, c'est que tout être humain, là où il est, en tant qu'il est humain, peut absolument faire la différence. Ça c'est absolument, là où il y a un être humain, il y a un commencement qui est possible, il y a quelque chose qui est possible. Et c'est ça, à mon avis, le grand enjeu. Vous êtes pris dans un système qui vous déresponsabilise, mais vous pouvez à chaque instant remettre, et au fond si dans nos sociétés qu'on marche quand même, c'est parce qu'il y a plein de gens auxquels on ne donne absolument pas droit, des instituteurs, des infirmiers, des médecins, des boulangers, partout, qui font leur travail avec un peu d'amour. Et ça se sent. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de cette notion d'amour. C'est quasiment tabou. On peut montrer des sexes autant qu'on veut, mais parler d'amour est devenu complètement tabou. Par exemple, imagine un enseignant qui dit « j'enseigne par amour pour les élèves ». Ah non, mais c'est danger. Alors comment voulez-vous enseigner si vous n'aimez pas vos élèves ? Comment voulez-vous faire quelque chose si vous n'aimez pas ce que vous faites ? La tendresse a à voir avec le fait de donner droit à l'amour. Le mot est devenu tellement galvaudé qu'il est peut-être plus audible. Et donc, parler de la tendresse, on arrive mieux à voir concrètement ce que ça veut dire, avoir de la tendresse. Imagine un enseignant qui a de la tendresse pour ses élèves. Vous voyez, ça veut dire qu'il ouvre un rapport où il a même de les entendre. Tout être humain, pour répondre vraiment à votre question, tout être humain peut réussir à avoir un geste de tendresse, mais à mon avis, c'est tout le pari du livre, à la mesure où il ne rêve pas les yeux ouverts, à la mesure où on arrête avec un discours qui, à mon avis, s'est épuisé, où il faudrait juste aimer, il faut se confronter au système du désastre, il faut cesser de rêver les yeux ouverts, il faut voir l'ampleur de la barbarie, pour à partir d'elle avoir un geste juste.
Donc il ne faut pas être naïf ?
Absolument. Et je pense, et ce que je veux aussi dire, c'est, je ne dis pas que notre temps est pire qu'un autre. Je veux dire, voilà le problème de notre temps. Je vivrai au Moyen-Âge. Il y a sans doute au Moyen-Âge des formes qui empêchaient le déploiement de l'humanité. C'est pas le même que le nôtre. Mais je crois que nous avons la responsabilité, si nous voulons préserver une parole vivante, une parole d'amour vivante, de voir quelle est la singularité de la violence propre à notre temps. Or, la singularité de la violence propre à notre temps, elle est inapparente et d'autant plus insidieuse et mortelle. Et je crois que si on voit ça, alors on peut agir d'une manière où la tendresse, la douceur et l'amour garderont leur charge profondément révolutionnaire, profondément provocante. Et encore une fois, si on pense à l'exemple du Christ, son discours d'amour n'est pas un discours bien pensant, convenu, mais c'est quelque chose de tranché qui vient faire effraction, qui vient bouleverser les lignes habituelles. Et je crois que ce que nous avons à faire ça aujourd'hui, nous avons à entendre par où quelque chose s'empêche, ne peut pas se montrer de cette bienveillance, de cette tendresse, de cet amour. Et c'est un défi énorme pour chacun d'entre nous. Pour tous les auditrices et les auditeurs qui nous entendent, j'ai bien conscience, c'est un défi très difficile. Comment maintenir, malgré tout, cette vive flamme de lumière dont notre monde a besoin ? Mais Fabrice, c'est ça la responsabilité éthique.
Fabrice Midal, les gens recherchent autre chose aujourd'hui. Les livres sur le bonheur se vendent énormément. Alors, c'est un effet de mode, recherche de vie spirituelle, la sérénité. Les gens ont envie de sortir, on le sent. Et en même temps, il semble que ça ne marche pas.
Ça ne marche pas parce que déjà, je pense que le discours sur la sérénité est un discours trompeur. Moi, je n'ai jamais vu un être humain serein. J'étudie avec des très grands maîtres bouddhiste, j'ai rencontré des grands maîtres de différentes traditions spirituelles. Un être entièrement serein, je ne connais pas. Je trouve qu'il y a là quelque chose comme un incroyable mensonge publicitaire. J'ai vu des gens qui étaient apaisés, mais qui étaient toujours confrontés à des défis. Alors moi, je suis en ce moment dans un état de complètement bouleversé par l'action du pape François. Le pape François n'est pas un être serein. C'est un être qui cherche de tout son être à aider le monde, qui est traversé et travaillé. Il en témoigne beaucoup d'un travail réel. Alors on vend aux gens une sérénité, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu, vous, des saints sereins ? Non. Est-ce que le Christ était serein ? Non. Il y a un défi de l'existence. Or, à mon avis, le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut vendre du bonheur et de la sérénité en faisant semblant qu'il n'y a rien à faire et que ça va venir comme on achète un produit dans un supermarché. C'est une incroyable imposture. Je crois qu'il faut absolument dire, il y a part de l'existence humaine, il y a une douleur d'être, il y a le fait qu'on est appelé à se transformer, qu'on est en lien à la souffrance du monde et la tendresse du monde, c'est aussi que le monde vous appelle et vous laisse pas en paix. Le monde ne vous laissera pas en paix, il vous appelle. Et il y a ici une responsabilité que nous avons pour le monde qui fait que la sérénité me semble, moi, profondément trompeur. C'est une tromperie. Vous ne serez jamais serein.
Donc, oser traverser la vie avec ses aspérités, avec ses zones d'ombre. Vous parlez du tragique.
Absolument.
Traverser ce tragique.
S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. La lumière sans ombre, c'est Disneyland. Et Disneyland n'est pas un projet de société humaine. Et c'est un projet qui ne repose pas sur une vérité, une véritable considération de l'humanité. La lumière implique le passage par l'ombre. C'est une évidence. J'aime beaucoup la phrase de Rainer Maria Rilke qui disait « Les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent d'être reconnues. »
Apprivoisées.
Apprivoisées. Et ça, c'est, vous voyez, c'est tout à fait important. C'est pas en détruisant les dragons qu'on va réussir à voir la lumière. C'est au contraire en entrant en rapport à notre propre douceur. J'aime aussi beaucoup la phrase du Bouddha qui disait « Jamais la haine n'a vaincu la haine. Seul l'amour réussit à apaiser la haine. » Et on voit bien que c'est absolument central. Nous croyons qu'on va détruire le mal, détruire ce qui nous empêche et que ça va être la sérénité. C'est incroyablement violent. Et donc le discours sur le bonheur et le discours sur la sérénité, au nom d'un idéal merveilleux, ne fait que propager une incroyable violence. Puisqu'il faudrait se conformer à un modèle où on est tout le temps apaisé, et les problèmes, la douleur, les difficultés qui constituent la grandeur de l'être humain sont vus comme une faute, comme un manque. Et donc les gens, par exemple, qui ont des problèmes à leur travail, qui sont licenciés, ont l'impression que quelque chose, que c'est une faute en eux, au lieu de voir que ça peut être un processus de transformation absolument central. Et je crois qu'un des mots clés qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est appelé à se transformer, à se métamorphoser. Il ne peut jamais rester figé une fois pour toutes.
Repère, Béatrice Soltner.
Fabrice Midal, vous écrivez « Il nous faut entrer dans la nuit, tel est contre toute attente le seul chemin. Nous sommes d'autant plus enfermés que nous refusons de nous confronter à nos véritables douleurs, à nos manques, aux choses telles qu'elles sont. » Donc regardez toute la beauté du monde, mais aussi oser aller vers la complexité, vers ce qui ne marche pas en nous, vers ce qui ne marche pas en l'autre, les échecs.
Absolument, sinon quelque chose est complètement faux et sera marqué par la peur.
En vous écoutant, je pensais à tout le débat autour de l'euthanasie aujourd'hui.
Ah, c'est, oui.
Maîtriser et gérer jusque-là l'heure de la mort.
C'est juste atroce et on ne se rend pas compte des conséquences que ça va avoir. C'est-à-dire que les personnes âgées qui seront en fin de vie, qui sont un peu malades, on leur dira « mais pourquoi continuez-vous à exister ?» Ça va créer une pression dont on voit les enquêtes dans les pays qui le font. C'est cette idée, oui, qu'il faut tout maîtriser, tout gérer, à quelque chose d'effroyable. Et comme ça ne se... Vous voyez, c'est là que je parlais d'un système du désastre insidieux. Ça ne se voit pas. On peut avoir les meilleurs sentiments sans se rendre compte. La vérité du mal aujourd'hui est tout à fait... ne se montre pas. Ça, c'est le philosophe que je suis est en reste interdit de, il nous faut quasiment tout repenser à partir de ce phénomène-là. Vous voyez, l'euthanasie à première vue, ça part des meilleurs sentiments du monde.
C'est pour votre bien, le bien de votre proche qui souffrira
voilà,
moins.
Absolument. Et on se rend pas compte de ce que ça cache d'incroyable violence.
Alors comment vivre avec ces zones d'ombre? Parce que vous en parlez beaucoup dans le livre.
Oui. Alors d'abord, là on voit bien le point commun entre ce que je peux dire, ce que disent les grandes paroles spirituelles, ou aussi beaucoup de grands thérapeutes peuvent dire ça. Si vous avez de l'angoisse, si vous avez peur de quelque chose, c'est surtout pas en niant le fait que vous avez peur, que vous avez de l'angoisse, que vous allez pouvoir le surmonter. Mais c'est plutôt en entrant en rapport avec. Sans violence, sans haine, mais d'être prêt à rencontrer. Et c'est un phénomène dont qui est très profond et très connu. C'est en disant bonjour à ces ombres qu'on les transforme. Et c'est surtout pas en les refusant. J'avais beaucoup parlé dans mon précédent livre sur Au juste ou impossible regard, comment j'ai dû moi-même, pour essayer d'apaiser un peu, s'il n'y a pas de sérénité, il y a un apaisement possible, tout à fait. Comment j'ai dû travailler sur l'histoire de ma famille, sur la Shoah, qui a beaucoup marqué ma famille, une grande partie de ma famille est morte en déportation. Et j'étais d'autant plus... J'étais un enfant complètement à la limite presque de la folie, puisque personne ne voulait rien dire. Et donc la souffrance que je sentais, on n'en parlait pas. Et le fait de pouvoir parler, de pouvoir comprendre, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, est une source d'incroyable apaisement. C'est pas une consolation. Je dis beaucoup ça, je ne cherche pas à être consolé à jamais. Je reste à jamais meurtri devant la souffrance de tant de gens dans le monde, de tant de gens qui souffrent aujourd'hui. Donc moi, je ne veux pas être serein. Parce que je me sens en communion avec tous ceux qui souffrent. Mais il y a un apaisement possible qui permet de déployer une plus grande ampleur d'amour. Et cette plus grande ampleur d'amour, à mon sens, elle n'est possible que si vous ne niez pas les propres ombres que vous avez. Et nos ombres, loin d'être des empêchements à l'amour, au contraire, sont ceux qui le permettent. Alors je crois que ça se comprend tout simplement, parce que ça pourrait sembler un peu abstrait ce que je dis, quand on aime quelqu'un profondément, on se rend compte que ses défauts ne sont pas opposé à ses qualités, qu'il y a quelque chose dans ses qualités, ses défauts qui sont beaucoup plus unitaires qu'on ne le croit. Et que le vrai chemin qu'il aurait à faire, c'est pas tant de détruire ses défauts, mais de plutôt réussir à trouver un autre rapport entre ses défauts et ses qualités pour que ça s'harmonise mieux. Et je crois que le travail d'une vie, c'est trouver une autre harmonie des forces en nous, et non pas cette idée qu'il faudrait cacher, nier, détruire certains aspects de soi. Et c'est toujours cette idée que c'est un rapport de bonté à ces ombres qui va les apaiser et non pas un rapport de violence à ces ombres qui va les apaiser. Et donc, si nous ne rencontrons pas nos ombres, si nous avons peur de nos ombres, nous ne pouvons rien faire. Nous vivons à côté de nous. Et c'est peut-être une des douleurs très profondes de notre société, c'est que beaucoup de gens vivent à côté d'eux. Et ça, c'est vraiment triste.
Un dernier point, Fabrice Midal, vous parlez beaucoup de l'art dans vos livres, dans celui sur la tendresse aussi, vous parlez de la poésie. En quoi le langage poétique, cette approche du monde, peut-elle nous aider à changer, à bouger quelque chose dans ce système quand même intenable que vous avez décrit ?
Parce que la poésie parle le langage de l'amour. Tous les poètes sont marqués par la figure d'Orphée. Et Orphée, c'est une figure tout à fait extraordinaire. C'est une figure mythique, mais c'est quelqu'un qui, par amour, a été dans les enfers, libérer la femme qu'il aimait. Et chez les Grecs, il en sort, chez les Romains, il se retourne et il la perd. Mais ce mouvement d'amour, je crois que la poésie nous parle de ça. Elle réussit à nous parler de l'amour sans passer par la réflexion mentale et intellectuelle. Et moi, en tant que philosophe, je cherche aussi à sortir du piège de vouloir tout penser. Il faut penser aussi la limite de la propre pensée. Et je crois que pour un philosophe, se confier à la poésie, c'est voir aussi la limite de la puissance de la pensée, qui doit de temps en temps s'effacer devant le silence d'une parole qui parle droit au cœur. Et l'autre raison, c'est une chose toute simple que dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Il dit l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je crois que c'est ça que fait la poésie. Elle nous montre cet invisible qu'on ne peut voir qu'avec le cœur. Elle sait nous parler de ça. Et je trouve que ça a une vraie vertu de guérison de se confier à la poésie. Mais pour la poésie et l'art en général, mais pour autant que la poésie et l'art ne soient pas ramenés à un élément culturel pris en charge par le dispositif du désastre, de la comptabilité extrême. Ou alors, on va avoir une exposition parce qu'il faut avoir vu l'exposition, par référence culturelle, pour avoir compris quelque chose. Non, l'art n'a de sens qu'en tant qu'il est une transmission spirituelle, une transmission de cœur à cœur, la rencontre avec un être humain. Et c'est une expérience toute simple. Quand vous allez voir une exposition de peinture, vous n'avez pas besoin de prendre les audioguides et essayer de comprendre. Vous pouvez juste sentir les choses. Et quand on voit vraiment l'exposition, on se rend compte en sortant qu'on ne voit plus le monde de la même manière. Que, comme dit Proust, l'artiste nous prête ses yeux pour voir le monde quelques minutes autrement. Et je crois que c'est très précieux.
Merci Fabrice Midal. Je recommande la lecture de votre livre, La tendresse du monde, l'art d'être vulnérable. Il est paru chez Flammarion. Et puis je signale que vous êtes l'auteur d'un coffret CD de méditation sur l'amour bienveillant. Il est paru chez Audiolib. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.